Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence nombreuse pour la présentation du livre de Gilles Boyer, Rase Campagne, donc chez Jean-Claude Lattès. Alors Gilles Boyer, j'allais dire, les Bordelais le connaissent bien, j'allais dire très bien. On va y revenir, puisque vous avez été aux côtés d'Alain Juppé comme directeur de cabinet dans cette ville de nombreuses années, que vous avez également fait campagne et même dirigé sa campagne, ses campagnes d'ailleurs, à Bordeaux, avant de diriger la campagne de la primaire, à laquelle s'est présenté Alain Juppé. Et c'est ce que vous racontez dans ce livre. Vous allez nous raconter dans un instant un peu le principe narratif qui est celui que vous avez choisi. Moi, j'avais eu le plaisir de vous présenter, vous et un autre co-auteur, vous dites dans le livre presque votre frère en écriture, qui est Édouard Philippe, actuel maire du Havre, parce que vous avez écrit ensemble, alors je crois que c'est deux ouvrages qu'on peut appeler des romans politiques ou des polars politiques. Et moi, vous m'aviez demandé très gentiment, et ça m'avait fait beaucoup plaisir, de présenter Dans l'ombre, qui est un excellent roman. Et d'une certaine façon, si vous voulez bien comprendre l'auteur de Rase Campagne, lisez ou relisez aussi Dans l'ombre, parce que là, vous allez avoir la chance de parler presque avec le héros de Dans l'ombre, si je puis dire, qui est cette fois-ci qui parle à la première personne. Alors, votre livre est truffé de perles et de marques d'autodérision. Il y a un humour tout à fait remarquable. Par exemple, vous dites « Tout le monde pense avoir du sens politique, même moi », c'est pour vous dire. Ça, c'est page 43. Page 29, une autre perle que j'ai beaucoup aimée sur la différence entre l'armée et la politique. « Dans l'armée, on ne fait rien, mais on le fait tôt. En politique, on ne fait rien, mais on le fait tard. » Autant vous dire qu'au ministère de la Défense, les journées sont longues, et vous y êtes resté quelques semaines, heureusement pour vous, du 15 novembre 2010 au 1er mars 2011, avec Alain Juppé, avant de le suivre au Quai d'Orsay, en remplacement de Michel Alliot-Marie, qui s'en est d'ailleurs toujours pas remise. Une des dernières perles est celle-ci. Je m'aperçois vite, comme directeur de cabinet, alors cette fois-ci, le « il », c'est Alain Juppé, et c'est comme directeur de cabinet à la mairie de Bordeaux, quand vous découvrez le job, je m'aperçois vite qu'il me paie pour le soulager des détails. Alors là, tenez-vous bien, j'espère qu'il y a de fervents latinistes parmi vous, de minimis non curat praetor, ce qui veut dire grossièrement, dites-vous dans une note infrapaginale, le chef ne s'occupe pas de petites choses. Me répond-il parfois, écrivez-vous, lorsque je lui soumets un dilemme que je suis en résoudre tout seul. Nous parlons souvent en latin, enfin, surtout lui. question, l'humour et la distance, cher Gilles Boyer, vis-à-vis de soi-même, est-ce que ce n'est pas la seule manière de survivre en politique? Et est-ce que ceux qui n'ont pas d'humour, finalement, sont des victimes destinées à succomber?
C'est vrai dans la vie aussi, non? L'humour peut sauver bien des situations. Bonsoir à tous, merci d'être là. Juste pour dire que c'est vrai que dans les moments difficiles, la primaire que nous avons vécue a eu un dénouement qui a été vécu un peu de manière compliquée, il reste guère que l'humour pour s'en sortir. Bon. Et comme j'ai travaillé pendant 15 ans auprès de quelqu'un qui m'a toujours appris qu'il fallait travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, j'ai essayé d'en tirer quelques conclusions. D'abord parce que la politique, c'est quelque chose d'éminemment respectable, sérieux, un peu discrédité par les temps qui courent. Mais si on renonce à toute distance sur ce qu'on fait, à tout recul, et si on considère qu'on est au centre du monde, on a déjà perdu gros, à mon avis. Donc à titre personnel, je renoncerai jamais à l'humour. Je regrette de vous dire qu'il s'exprime plus à l'écrit qu'à l'oral.
Ça, c'est déjà très drôle. Bien. Alors, vous avez un point commun parmi d'autres avec Alain Juppé, mais dans votre trajectoire, mais
Tignasse.
Non, mais celui-là, ce point commun, vous ne le dites pas. Alors, ça m'a étonné. Page 19, vous écrivez que vous arrivez rue de Lille au siège du RPR le 17 février 1997, deux mois avant la dissolution de l'Assemblée nationale, et Alain Juppé est entré au cabinet du Premier ministre Jacques Chirac à Matignon quelques mois avant la démission de celui-ci de Matignon, le 25 août 1976. Je me demandais si finalement, tous les deux, quand vous êtes arrivés quelque part, ça passe ou ça casse.
En tout cas, ça montre qu'on n'est pas des opportunistes. Au moins, ça, c'est au moins ce que ça illustre. C'est une coïncidence de date qui est rigolote. C'est vrai que je suis arrivé, ça fait exactement 20 ans, hein, février 97. On est en mars 2017. Ça fait 20 ans, ça a passé très très vite.
C'est votre premier travail, c'est ça ?
Oui, alors autant vous dire que sur un CV, ça marque les esprits. Hein, quand le premier job, c'est au siège du RPR chargé des questions juridiques. Pour assurer la reconversion professionnelle, c'est assez moyen. Et en même temps, c'était passionnant. C'était passionnant, ça m'a permis de rencontrer tout un tas de gens extraordinaires.
Et vous dites même, pardon, je vous coupe, Gilles, qu'on vous affecte le bureau de Madame Cassetta.
Ben oui, c'est vrai. Alors vous connaissez peut-être pas tous Louise-Yvonne Cassetta, qui a été citée dans toutes les affaires du RPR, qui était la trésorière du RPR. Et lorsque j'arrive, moi, avec mon petit costume, j'ai 25 ans, je découvre ce monde que je regarde avec mes grands yeux ébahis. Et on me dit, tu vas prendre ce bureau. C'était le bureau de Louise-Yvonne Cassetta. Il y avait un coffre dans le bureau. Et plus personne n'avait ni le code ni la clé. Et je ne me suis jamais essayé de l'ouvrir.
En fait, comme on dit, il y a des ombres, quoi, hein, effectivement.
Oui, mais bon, c'est
maintenant. Alors, vous racontez par le menu comment vous allez travailler à partir de septembre 2002 aux côtés d'Alain Juppé, parce que bon, il s'est passé effectivement après 5 ans à Bordeaux comme directeur de cabinet. Vous avez une phrase, c'est assez touchant, parce que dans le livre, vous parlez vraiment de manière très personnelle. Hein, vous dites, moi, le petit chose, 31 ans, si peu diplômé, endimanché dans mon costume bon marché voilà. Face à Juppé, hein, voilà, c'est bon, faut se calmer avec les costumes, hein, parce que
les costumes pas chers, ça peut servir. Voilà. Hein.
La statue du commandeur, le meilleur d'entre nous, précédé de sa réputation. L'entretien se passe bien. Il parle. Est-ce parce qu'au fond, il est encore plus timide que moi ?
Non, juste, je raconte ça parce que c'est vrai que je me retrouve à passer un entretien d'embauche avec Alain Juppé dans son petit bureau à l'Assemblée nationale. Et je m'attends à devoir présenter ma candidature pour être directeur de cabinet ici, à Bordeaux. Bon, c'est un job pas simple. Ludovic, qui est là, le sait. Hein, il l'a occupé depuis plus longtemps que nous tous. Et je m'attends à subir un interrogatoire avec des questions extrêmement précises. Donc moi, j'ai révisé, j'ai bachoté, etc. Et puis je m'aperçois qu'il ne fait que parler. Et il parle de sa ville avec passion, il me parle de Bordeaux avec les yeux qui brillent et tout. Et moi, j'écoute, évidemment, j'écoute. Et donc je sors de là, j'ai à peine réussi à en placer une. Bon, je ne sais pas très bien ce que ça signifie, mais visiblement, ça lui a plu parce qu'il m'a choisi.
Et vous dites, oui, heureusement que j'en ai pas placé une, c'est peut-être pour ça qu'il m'a choisi.
Ben on ne saura jamais, mais si il m'avait laissé parler, peut-être qu'il ne m'aurait pas retenu. Hein. Et donc, on ne saura jamais, c'est le hasard de la vie. Mais j'ai tout de suite vu la passion qu'il animait pour cette ville, et donc je suis arrivé ici, certains d'entre vous s'en souviennent, donc c'était il y a 15 ans déjà, il y a 15 ans. La ville était éventrée par les travaux du tramway, c'était un contexte politique très, très particulier, et moi j'ai découvert cette ville et vous tous, enfin ceux que j'ai rencontrés à l'époque. Je suis, comme vous le savez, j'ai passé 2 premières années ici. Ensuite, je suis parti lorsqu'Alain Juppé est parti au Québec. Je suis revenu ensuite pour faire la campagne des municipales de 2008 avec certains d'entre vous. C'est une ville où je garde beaucoup d'attaches et beaucoup d'amis.
Voilà. Mais alors, sur Juppé, parce que vous n'avez pas répondu.
Non, j'ai pas répondu, j'ai fait exprès.
Mais c'est pour ça que j'espérais
que ça se verrait pas.
C'est pour ça que je vous pose la question sur la timidité, parce que c'est un vrai sujet, ça. Est-ce qu'on peut réussir en politique quand on est timide, et quelle forme de timidité? Il y a plusieurs formes de timidité.
J'espère que oui. J'espère que la seule qualité requise, c'est pas d'être une grande gueule, parce que sinon c'est un petit peu désespérant. Ouais. On peut être, je sais pas, la différence entre timide, réservé. Moi, je suis pas linguiste, mais en tout cas, on peut faire preuve d'une certaine sobriété.
Pudique aussi.
Oui, une pudeur. Moi, je trouve que ce sont des vertus. Après. C'est vrai que dans le monde politico-médiatique tel qu'il est devenu, c'est pas forcément des qualités qui sont valorisées, pas plus que la volonté perpétuelle d'exprimer des sentiments de modération, d'exprimer la complexité du monde. En ce moment, c'est pas très valorisé. En ce moment, on est plutôt dans le oui ou non, pour, contre. C'est un peu binaire, notre affaire, je trouve, en ce moment. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant la primaire. Ça a pas fonctionné. Je pense pas que ce soit une des raisons de l'échec. Mais ça en dit long sur ce qui est devenu, à mon avis, notre système démocratique, c'est-à-dire notre incapacité à se laisser convaincre par l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les réseaux sociaux en particulier, moi, je n'ai jamais vu personne convaincre personne. Tout le monde est campé sur sa position, et en général, on s'éloigne à fur et à mesure que la discussion avance. C'est vrai aussi dans les débats sur les chaînes télé, on invite quelqu'un qui est pour, quelqu'un qui est contre, mais il y a personne qui apporte un peu de nuance, on n'essaie plus de se convaincre. Ce sont des successions de monologues. Et donc je trouve que dans des moments comme ça, les vertus de sobriété, les vertus de modération et les vertus aussi de pudeur personnelle sont des qualités qui sont à valoriser, même si c'est difficile.
Et n'empêche que votre grand-mère, quand vous l'appelez pour lui dire « voilà, je suis embauchée », alors vous dites « c'est une institutrice laïcarde, de gauche jusqu'au bout des ongles », elle vous dit « tout cela, c'est très bien, mais il serait peut-être temps d'avoir un travail sérieux ».
Oui, vous voyez les encouragements que j'ai reçus. Mais en même temps, c'était très touchant parce que ma pauvre grand-mère défunte qui comprenait pas bien tout ce que je faisais et ce qui se passait. Moi, je viens d'une famille de gauche profondément. Bon. Et le jour où j'étais fier comme Artaban, et je viens de lui dire que Alain Juppé m'a choisi pour diriger son cabinet à Bordeaux. Et elle a regardé le ciel, elle m'a dit ça. Elle m'a dit « Ah, c'est très bien, oui, c'est très bien, mais un jour, il faudra peut-être avoir un boulot sérieux, sous-entendu, être fonctionnaire, être prof, parce que là, tous ces changements, ça commence à bien faire. » Et donc, c'était pour illustrer le monde culturel dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai évolué, et qu'il a fallu transcender pour vivre toutes les aventures professionnelles que j'ai vécues.
Mais indépendamment de la différence idéologique, est-ce que ça ne dit pas aussi la manière avec laquelle le travail politique est perçu, finalement, par la majorité des Français, que c'est pas une chose sérieuse, la politique?
Je peux vous dire qu'on travaille beaucoup en politique. Je ne sais pas si on travaille bien, mais en tout cas, on travaille beaucoup. Et c'est vrai que de l'extérieur, c'est un monde qui est très décrié. Et ça vaut pour les élus, les hommes et les femmes politiques eux-mêmes, et puis pour ceux qui les accompagnent, les collaborateurs. Bon. Et je raconte souvent, plusieurs fois dans ma vie, j'ai cherché du boulot dans le privé. Il m'est même arrivé d'en trouver. Et lorsque je devais expliquer ce que je faisais, tout le monde me regardait curieux. Qu'est-ce que c'est que cet animal là? On ne sait pas très bien. Oui, il a fait de la politique. Bon. Enfin, on ne sait pas très bien ce qu'il sait faire. Est-ce qu'il sait tout faire ou est-ce qu'il sait rien faire? C'est entre les deux, quelque part, mais on ne sait pas. Et donc, il y a un mystère qui plane sur les métiers que nous, on fait aux côtés d'hommes politiques importants. Et c'est ce que j'ai voulu décrire et raconter dans le bouquin aussi. C'est raconter comment se passent mes journées, les décisions qu'on doit prendre, les enjeux, la responsabilité aussi qui pèse sur les épaules. Et donc, c'était une manière pour moi de réhabiliter aussi ces métiers qui sont méconnus, souvent un peu décriés. Quand on parle des apparatchiks, c'est pas un terme très affectueux. Et pourtant, c'est ce que nous sommes.
Je résiste pas au plaisir de citer une phrase
allez-y.
De John Major, mais c'est pas
John Major, oui.
Que vous empruntez. Si vous voulez de la reconnaissance, ne faites pas de politique, achetez-vous un chien, quand même. Et alors, justement, c'est vous-même, Gilles, qui évoquez le mot apparatchik, parce que vous dites, page 70, parmi tous les termes utilisés pour définir le métier que vous, que politique, vous semblez préférer donc le mot apparatchik. Et vous écrivez, disons apparatchik, un homme d'appareil. Il y a peu d'affection dans le mot apparatchik. C'est un peu paradoxal parce que c'est effectivement un mot un peu dur. Enfin, ça sonne système soviétique. J'ai vérifié quand même le sens russe du mot. Ça veut dire personne haut placée, dignitaire du Parti communiste d'Union soviétique. C'est comme ça que vous vous définissez ou c'est une provocation supplémentaire pour ne pas donner le sentiment que vous voulez être aimé?
Surtout pas. Non, mais le... Je crois que c'est un mot... J'ai cherché comment mon métier s'appelait. En vérité, il ne porte pas de nom. Ça n'existe pas. On n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas ça à la fac, on n'apprend même pas ça à Sciences Po.
Accessoirement, je suis responsable d'un parcours de master qui s'appelle les métiers du politique.
Et donc, l'apparatchik, alors, en fait, c'est ça?
Non, mais ça s'appelle pas l'apparatchik.
Vous formez des apparatchiks, alors?
Voilà, on peut le dire comme ça, mais des collaborateurs d'élus.
Apparatchik, c'est un mot qui vient évidemment, comme vous l'avez rappelé, de l'Union soviétique et qui est un peu péjoratif. Mais enfin, c'est l'homme d'appareil, quoi. C'est l'homme d'appareil. Donc, on peut l'appeler comme on veut, directeur de cabinet, conseiller.
Chargé de mission.
J'ai choisi ce mot-là parce qu'il est l'image est la plus parlante. Et en même temps, c'est vrai qu'il a une connotation négative parce que le monde politique, en ce moment, est mal perçu. Et donc, tous ceux qui y travaillent ont un a priori négatif à subir, je trouve. À tort ou à raison, pas toujours à tort, mais en l'occurrence, il y a des gens qui font bien leur boulot. Hein, c'est comme les agents immobiliers. On dit, oh là, les agents immobiliers, il faut s'en méfier. Bon, ben, c'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui ont des comportements bizarres que tout le monde, que tous, ont un comportement bizarre ou regrettable. Ben, les hommes politiques, c'est pareil. Voilà. Et donc, c'est une profession discréditée, et ceux qui les accompagnent en subissent les conséquences. Pourtant, il y a des gens très bien qui font de la politique. Il y a 600 000 élus en France. 600 000 élus. C'est un Français sur 100 est élu. Vous vous rendez compte, c'est beaucoup, un sur 100. On pourrait même dire que c'est trop. Bon. Parce que, bon, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Bah, sur les 600 000, il y en a 599 000 qui sont des conseillers municipaux dans des communes minuscules, qui font chaque jour le bien autour d'eux, qui consacrent du temps, de l'énergie pour pas un rond, pour le bien commun. Et ça, il faut les respecter. Et ce n'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui, au fil des années, ont eu des problèmes, des turpitudes, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est aussi, dans mon livre, je voudrais réhabiliter l'engagement politique, parce que je pense que c'est dans les moments de difficultés comme cela, difficultés économiques, incertitudes, doutes identitaires, la réponse, c'est pas le découragement, la réponse, c'est l'engagement. Vraiment, la réponse, c'est l'engagement. Et simplement, pour quelqu'un comme moi, de ma génération, tout me pousse à renoncer, pourtant. Tout me pousse à renoncer, parce que la vie d'un homme politique, elle est devenue impossible. Et je ne dis pas que ce n'est pas notre faute, je dis juste que c'est comme ça. Je trouve qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement à ça, sinon on arrive à un système où les meilleurs n'ont plus envie de faire de la politique. Et quand j'ai commencé il y a 20 ans, les meilleurs d'une génération, ils faisaient de la politique. Hein, tous les premiers de l'ENA, là vous les preniez, là, la liste des 7-8 premiers de l'ENA, à supposer que ce soit les meilleurs d'une génération, mais enfin en tout cas on n'a pas d'autres instruments de mesure, ils faisaient de la politique, ils s'engageaient au service de l'État. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucun. Donc il faut se demander pourquoi. Il faut se demander pourquoi. Et évidemment, ça ne peut qu'aboutir à terme à une paupérisation du personnel politique. Je pense qu'il faut garder ça présent à l'esprit.
Je reviens à la relation que le collaborateur a avec, entre guillemets, son patron ou sa patronne, que vous aviez très bien présenté et décrit, Édouard Philippe et vous, dans l'ombre. Et on retrouve dans votre livre, Gilles, cette fois-ci, c'est vous qui parlez à la première personne, vraiment, c'est marque d'une relation qui est presque amour, amitié, admiration à l'égard, en l'espèce, d'Alain Juppé. Page 77, vous écrivez « J'aime cet homme avec ses qualités et ses défauts, mais je ne cherche à convaincre personne, plus maintenant. » Page 79, il m'a fait découvrir des choses sur moi-même que j'ignorais. Il y a une phrase qui est très forte. Il m'a, en quelque sorte, révélé à moi-même. Il m'a beaucoup pardonné aussi. Ce sont des phrases qui sont, d'abord, bon, je trouve très belles, mais qui, par ailleurs, montrent une forme de presque, je dirais pas de d'hypnose, mais vous avez à l'égard d'Alain Juppé un respect absolu. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est quand on travaille de manière aussi proche avec quelqu'un, au bout d'un moment, cette proximité, cette admiration que l'on porte à la personne pour laquelle on travaille, est-ce que ça ne devient pas un peu un danger en termes de qualité du conseil, par exemple?
Alors, j'ai aucune objectivité sur le sujet.
Hein. Bien sûr.
Donc, je voudrais poser ce préalable. J'ai aucune objectivité. J'ai travaillé avec Alain Juppé pendant 15 ans et ça restera pour toujours la grande fierté de ma vie. Ça a fait de moi un homme différent, comme je l'écris. Tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais grâce à ça. Et donc, ça, je ne pourrais pas l'oublier. Quand je dis que j'aime cet homme avec ses qualités et ses défauts, je n'énumérerai jamais ses défauts, mais je les connais. Et donc le défi, en effet, sur la durée, c'est de garder une distance par rapport à son sujet. Et je crois que quand on aime quelqu'un, il y a une définition de l'amitié qui est un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît par cœur et qu'on aime quand même. Et ben c'est ça. Voilà, c'est ça. Et la politique, elle a cette caractéristique, c'est-à-dire on noue des relations qui sont de nature professionnelle, hein, mais on ne peut pas s'extraire d'une dimension affective. C'est impossible de s'extraire d'une dimension affective.
Pourquoi ? Parce qu'on est tout le temps ensemble.
En tout cas, je parle de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu. Et je n'aurais pas pu l'accompagner aussi longtemps et dans des fonctions aussi différentes si je n'étais pas en parfaite identification avec les valeurs qu'il porte. mais ça c'est très personnel, hein. D'autres ont sans doute moins d'état d'âme par rapport à ça, mais à titre personnel, j'aurais pas pu le faire. Et jamais en 15 ans, je me suis dit, tiens, là je suis en désaccord fondamental avec ce qu'il décide ou avec ce qu'il dit. On peut avoir des divergences, on peut aborder des sujets par des angles différents, mais jamais je me suis senti mal à l'aise de porter une de ses idées. Et ça c'est à la fois décisif et rare, c'est très rare. Donc aujourd'hui, c'est une page qui s'est tournée, parce que quelque part, je ne serai plus son collaborateur. C'est la relation, elle va s'appeler autrement. Je ne sais pas comment elle s'appelle, d'ailleurs. On pourrait en parler, si vous voulez. C'est un monde... Le monde politique crée ce genre de relations qui sont au confluent du professionnel, parce qu'on bosse. Voilà, il y a un chef, un collaborateur, des instructions qui sont exécutées. Bon, ça, d'accord, ça existe dans tous les mondes professionnels. Mais il y a une dimension de relations personnelles, affectives, et j'ose dire amical, qui se noue au fil du temps et qui fait qu'on ne peut pas appréhender la relation professionnelle comme on le ferait dans une grande entreprise ou dans un autre monde professionnel, à mon avis.
Jusqu'à quand même, ça c'est au tout début de votre livre, et il se trouve que je vous dis tout à l'heure, avant qu'on commence, que je suis l'auteur du petit tweet qui est parti de Sciences Po Bordeaux parlant de votre livre en disant « Race campagne, un beau texte, triste, mélancolique et classe », parce que je pense que votre livre, il respire la classe.
C'est gentil, merci.
Voilà. Vous allez très loin, vous dites au tout début du livre, vous racontez la soirée de la défaite, et vous avez ces mots, que moi je trouve très fort, vous dites « De cet instant et pour toujours, quand vous lui annoncez le résultat, pour lui et pour les autres, je serai le visage de cette défaite et j'en serai la voix. » Est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'appropriation de la défaite, comme si c'était en fait une forme d'aliénation? Finalement, vous prenez un fardeau qui est très lourd, et trop lourd, non, sur vos épaules.
Oui, probablement, mais enfin, si on avait gagné, il y a beaucoup de gens qui auraient dit que j'avais joué mon rôle aussi, donc il faut... Ouais. Dans les fonctions que j'occupais, en l'occurrence celle de directeur de campagne pour cette primaire, c'est une campagne qui a duré longtemps, 2 ans et demi, vous l'avez suivi, vécu, et avant les 3 dernières semaines, tout le monde avait des raisons de penser qu'on faisait plutôt les bons choix. Il se trouve que c'est les 3 dernières semaines qui comptent, hein, je ne l'oublierai jamais. Hein, bon. Mais enfin, et il se trouve qu'une fois la défaite consommée, et c'est le seul baromètre qui compte en politique, c'est le résultat des urnes, tout ce qu'on a fait avant est remis en question. Bon. Et donc le directeur de campagne, qui est censé conseiller, faire ses choix, évidemment, il est le premier responsable de ça. En tout cas, il se considère comme le premier responsable de ça. Bon. Et en tout cas, dans ce livre que j'ai écrit très très vite après la primaire, j'ai écrit en 6 semaines, et ça a été pour moi une manière sans doute très très utile de passer à autre chose.
Vous avez commencé à l'écrire quasiment début décembre.
Ouais, le surlendemain, ouais, le surlendemain de la défaite. D'abord parce que je suis un homme de l'écrit, vous l'avez rappelé, Jean, et j'aime bien écrire. Et c'est vrai que dans les moments dans les moments un peu de fragilité ou les moments difficiles d'une vie, moi j'aime bien me réfugier dans l'écrit. C'est un mode d'expression que j'aime bien. Et puis je l'ai écrit très vite parce qu'au fond, j'ai fait que raconter ma vie. Il n'y avait pas beaucoup de travail d'imagination ou de création. C'est une dimension aussi d'exutoire, et c'est aussi une dimension de compréhension. Moi j'aime bien comprendre ce qui se passe. J'aime bien comprendre pourquoi tout ce qu'on a conçu s'est écroulé. Et on peut en parler.
Alors, on va y venir.
On peut en parler. Il y a plein de raisons qui expliquent ce qui s'est passé. Mais on réécrira jamais l'histoire. Mais moi, j'avais besoin de comprendre. Ou en tout cas, de mettre des mots sur ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour passer à autre chose. Voilà. Donc à la fois, je prends ma part de responsabilité, en même temps, on ne va pas y passer la nuit, moi je suis passé à autre chose, la vie continue, elle est belle, la vie. Hein. Donc c'est pas ce qui est arrivé, c'est un événement malheureux et improbable, donc il faut comprendre ce qui s'est passé.
Vos filles sont contentes?
Oui, ça a au moins ce mérite-là.
C'est ce que vous dites dans le livre, hein, vous dites...
Oui, parce que mes filles appréhendaient beaucoup la victoire d'Alain Juppé, parce qu'elles se disaient qu'elles ne me verraient plus jamais. Voilà, ouais. Et donc, évidemment, ça fait réfléchir. Et donc, de ce point de vue-là, au moins, elles sont contentes. Ça a été une des dimensions à prendre en compte, oui, parce qu'on ne peut pas s'extraire d'une dimension personnelle dans ces aventures-là. Ouais.
Alors, durant 800 jours, il ne s'est pas passé un jour sans que quelqu'un ne me rappelle, comme si je l'ignorais, la malédiction du favori. Et pendant 780 jours, je pensais qu'il se trompait. Et vous dites, cette autre phrase, on y reviendra, qui a été très reprise à la fin de votre livre. Alors, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vous a manqué? Parce que c'est aussi la tentative de compréhension que vous faites dans le livre.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quels sont les choix que nous aurions pu faire des choix différents que nous aurions pu faire à partir des éléments dont nous disposions à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a tous les éléments de la primaire, évidemment, puisqu'on en a le résultat. Et donc tout le monde se dit, bah, c'est comme ça qu'il aurait fallu faire, parce que... Bon. Mais quand on a le résultat, c'est toujours un peu plus facile. Mais quand on n'a pas le résultat, moi, c'est ça la question que je me pose. C'est au moment où on a fait nos choix, quels sont les éléments dont nous disposions qui auraient pu nous inciter à faire des choix différents. Donc il y a eu beaucoup d'éléments qui ont joué un rôle. Lorsqu'on a conçu la campagne, on l'a conçue à l'automne 2014, hein, au moment où Alain Juppé s'est déclaré. C'est-à-dire il y a une éternité. Et à l'époque, il ne faut pas oublier que la primaire dans son existence même n'est pas assurée.
Tout à fait.
Parce que bon, Alain Juppé est candidat à la primaire, mais cette primaire, oh là là, il y en a beaucoup qui disent, mais à quoi ça sert, et pourquoi faire une primaire, on en reparlera peut-être. Uh-huh. Et donc du coup, on a consacré beaucoup d'énergie, ne serait-ce à sécuriser le fait que l'élection à laquelle on voulait participer ait lieu. Et ça, c'est quand même assez inédit, parce que quand vous êtes candidat à la présidentielle, vous êtes sûr qu'elle va avoir lieu, la présidentielle. Vous êtes candidat à la municipale, c'est pareil, vous êtes sûr qu'elle va avoir lieu. Et donc ça a beaucoup pollué notre esprit. Bon, on y est arrivé, parce qu'à la fin, la primaire a rencontré un succès formidable, mais enfin, ça, on y a consacré beaucoup d'énergie. Ensuite, depuis le début, on s'est dit, dans cette primaire, notre principal compétiteur, ce sera Nicolas Sarkozy. Et j'attends d'ailleurs celui qui va me dire qu'il est venu me dire l'inverse depuis 2 ans. Jamais j'ai entendu l'inverse. Nicolas Sarkozy était un compétiteur redoutable pour nous. Il a repris en main les Républicains. Il était revenu avec toute la puissance.
Et on parlait de l'effet de blast quand il allait se présenter.
Toute la puissance médiatique et organisationnelle qui est la sienne. Et donc on a focalisé notre attention uniquement sur lui. Et donc tous nos choix stratégiques ont été faits en fonction d'un duel avec lui. Bon. Et d'ailleurs, le duel, toute la France pensait qu'il aurait lieu. Bon. Et je me permets de dire que lui aussi a focalisé toute sa stratégie contre nous, d'une certaine manière. Hein. Bon. Et ce qui a permis au troisième larron de s'insinuer entre les... Bon. Et d'ailleurs, on s'est affaibli mutuellement. Hein. C'est-à-dire que nos arguments sur Nicolas Sarkozy, je crois, ont porté, et ses arguments sur Alain Juppé ont porté. Et pendant ce temps-là, ça a été au profit d'un autre. Bon. Et donc, je crois que je crois que c'est la cause essentielle de ce qui s'est passé. Voilà. Mais encore une fois, jusqu'à 3 semaines, jusqu'à quoi, fin octobre, tout le monde pensait que ce duel aurait lieu et rien n'indiquait qu'il n'aurait pas lieu. Alors on peut reparler des sondages qui ont été des indicateurs pour nous.
Alors d'ailleurs, dans le livre, c'est très intéressant, vous publiez régulièrement, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'élection, les états des sondages. Et on voit que pratiquement, les courbes sont quasiment toujours identiques. Hein, et puis, effectivement, c'est l'accélération, c'est à la toute fin. Hein. On parle un peu des primaires, on va revenir un peu peut-être sur la campagne. Page 94, dans une petite note infrapaginale, tout en bas, vous dites « Après la défaite, j'ai beaucoup entendu qu'Agi, donc vous utilisez les initiales pour citer les principaux acteurs, j'ai beaucoup entendu qu'Agi aurait dû enjamber la primaire, dites-vous entre guillemets, peut-être. Je n'oublie pas que cette décision aurait sans doute profondément divisé la droite, comme la gauche l'est aujourd'hui. Et puis vous dites, pourtant, page 134, la primaire ne ressemble à aucune autre élection. Est-ce que la primaire, c'est pas une ruse suprême des partis politiques pour faire croire qu'ils existent encore, mais finalement un poison mortel pour les institutions ?
Écoutez, moi, j'arrive pas à me dire que faire voter le maximum de monde pour désigner un candidat, c'est une mauvaise idée. J'arrive pas à me dire ça. J'ai du mal à me dire ça. Et c'est pas parce que le candidat que je soutenais n'a pas gagné que je vais changer d'avis. Parce qu'une fois qu'on a dit aux Français, au peuple de droite, au peuple de gauche, qu'ils avaient le droit de participer pour choisir leur candidat, si on leur dit demain que finalement ils n'ont plus le droit et qu'on va finalement décider ça entre nous comme on le faisait avant, je pense que ce sera vécu douloureusement et ce sera vécu comme une régression démocratique. Donc les primaires, c'est un système qui porte en elle beaucoup d'inconvénients. Beaucoup d'inconvénients, on peut en parler. Mais j'attends celui ou celle qui va dire y avait des primaires dans nos statuts, mais maintenant on n'en fera plus et on va continuer à désigner les candidats entre nous. Donc je pense qu'il y aura encore des primaires. Voilà, c'est mon pronostic. Voilà. Après, ce que je pense que l'élection présidentielle actuelle est en train de susciter, c'est qu'il y aura de plus en plus de candidats hors primaires. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les primaires n'auront pas lieu. Bon. Et si on se retrouve dans un second tour avec 2 candidats qui n'ont pas participé aux primaires, évidemment, ça va remettre en question la stratégie d'y participer. Voilà. Mais je pense que les primaires sont en train de s'installer dans la vie politique française, qu'on a tous essuyé les plâtres, à gauche comme à droite, mais que la classe politique va s'adapter. Et je pense qu'elles auront lieu parce qu'il y a une demande populaire. Il y a près de 7 millions de Français qui ont participé aux primaires de la droite plus celles de la gauche. C'est énorme. Dans un moment où le discrédit de la classe politique n'a jamais été aussi fort, où l'abstention n'a jamais été aussi forte, ce sont des chiffres énormes.
À propos des chiffres, parce qu'on on comprend bien que ça, les chiffres sont utilisés là comme élément et argument rhétorique pour conférer une légitimité par la primaire. La primaire est censée donner une légitimité. Ce qu'on constate, et c'est assez étonnant d'ailleurs, aussi bien du côté de François Fillon que du côté de Benoît Hamon, dans les éléments de langage qui sont utilisés, on entend 4,5 millions de Français se sont prononcés pour la primaire. Ça me donne une légitimité. Ça, c'est du côté de Fillon. 2,5 millions du côté de Hamon. En réalité, quand on regarde à la présidentielle de 2012, il y a eu 18 millions de voix pour Hollande, 16 millions pour Sarkozy, 34 millions de personnes. Il viendra à l'idée d'aucun des deux candidats, d'ailleurs, surtout du vainqueur, de dire qu'il y a eu 34 millions de Français qui se sont prononcés pour lui. Donc, ce qu'on constate, c'est que les vainqueurs de la primaire, alors que je crois que Fillon a fait 66%, c'est beau, enfin, Alain Juppé 33%, et Hamon a fait 56%. Ça vous paraît pas un peu étrange, ce jeu-là qui consiste tout d'un coup à vouloir se faire plus gros, d'une certaine façon, que la grenouille de l'élection?
Ouais, j'ai pas entendu ça. Enfin, notre primaire, il y a eu quoi, 4,4 millions
Ouais, 4,4 millions.
4,4 millions de votants. Et
ça fait un quart de l'électorat Sarkozy. Hein.
Oui, mais si vous voulez,
de 2012, je veux
dire. Oui, mais c'est quand même beaucoup mieux que 200 000 militants qui votent dans un congrès fermé. À ce compte-là, évidemment, rien ne vaut une présidentielle. Je vous l'accorde.
Mais c'était ça, le constituant instaure deux tours à la présidentielle, parce que le premier tour est une sorte de primaire, en quelque sorte, en 58.
La droite a toujours
en 65,
eu.
Pardon.
La droite a toujours eu deux candidats au premier tour de l'élection présidentielle.
Oui.
Bon. Mais il y a un fait nouveau,
la gauche souvent deux. La gauche souvent deux aussi.
Oui, mais depuis, il y a un fait nouveau, Jean, c'est la tripolarisation de la vie politique, l'émergence du Front National qui, de la vie générale, occupe une des deux premières places maintenant. Et donc, il ne reste plus qu'une place.
D'accord,
donc, si on veut l'occuper, il faut faire l'union au premier tour de la présidentielle. C'était l'idée. Je vous ferai remarquer que la droite y est arrivée, là.
C'est vrai. Ça dépend à quel moment on arrête le film. Hein, mais
Non, ça dépend qui vous classez à droite.
Dans ce qui a manqué, page 109, vous dites « Il doit y avoir un continuum entre ce qu'un candidat dit pendant la campagne de la primaire » et ce qu'il dit à la présidentielle. Agi n'aurait jamais souscrit à une solution différente. Et vous-même dites, si c'était à refaire, je ne varierais pas là-dessus. Or, on a constaté que pour gagner une primaire, aussi bien d'ailleurs du côté de Fillon que du côté de Hamon, il faut plutôt tenir un discours qui est en phase avec l'électorat qui va se déplacer à la primaire, c'est-à-dire un noyau dur de l'électorat de droite ou un noyau dur de l'électorat de gauche. Est-ce que finalement, malgré ce principe et malgré cette position de principe qui est parfaitement respectable, est-ce que ça, c'était pas une forme de contresens en se trompant d'élection ?
Bah, le résultat aidant, on peut penser que oui, hein, évidemment. Mais simplement... C'est une vraie question, parce qu'on peut retourner l'argument aussi. On peut aussi dire que quand on est sur une position trop clivante durant la primaire, on compromet sa capacité de rassemblement ensuite. On peut aussi dire ça. Mais encore une fois, on écrit ça après, c'est très facile. Et moi, je pensais depuis le début, c'était sans doute une erreur, qu'il ne fallait pas adapter son langage en fonction du public auquel on s'adresse. On parle aux Français. On parle aux Français. Bon. Et il y a un peuple de droite qui a forcément des idées plus à droite que la moyenne de l'électorat français. Voilà. Est-ce que c'est une raison suffisante pour avoir un langage différent à son encontre, pour avoir des propos qui peuvent apparaître contradictoires, pris en défaut de cohérence entre la primaire et la présidentielle? Moi, je ne crois pas. Je crois pas. Je crois surtout que notre idée, je crois, c'était de créer une forme de continuité entre la campagne de la présidentielle, de la primaire et de la présidentielle. Et on se serait rendu compte des vertus de cette stratégie si nous l'avions emportée. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais vous avez perdu. Bon. Mais enfin, ce n'était pas, à mon avis, une raison suffisante pour commencer à dire l'inverse de ce qu'on pense, pour faire plaisir à un électorat réel ou supposé, d'ailleurs, pour ensuite changer de pied à la bord d'une présidentielle, parce que, comme on dit, ça se voit. Ça se voit. Mais encore une fois, on a essuyé les plâtres, nous. On n'avait jamais fait ça. On n'avait jamais fait ça. Et donc, au moment d'aborder cette question, on n'avait pas de précédent auquel se référer, puisque c'était notre première
primaire. Le seul précédent, c'était en quelque sorte la primaire socialiste, quoi.
Mais dans mon esprit, je ne sais pas si Alain partage ça, mais dans mon esprit, la primaire, c'était une étape. Hein, c'est pas un objectif. C'est pas une fin en soi, la primaire. L'objectif, c'est même pas la présidentielle. C'est de gouverner et de réussir. Bon, pour gouverner et réussir, il faut gagner. Il faut rassembler les Français lors de la présidentielle. Et donc, si tout ce qu'on qu'on fait dans la primaire compromet ce projet, eh bien, on sacrifie l'essentiel au profit de l'accessoire.
Oui.
Eh bien, moi, je n'ai jamais voulu m'y résoudre. Alors, je reconnais qu'à quelques semaines près, ça aurait pu être assez, assez profitable, mais visiblement, ça n'a pas marché. C'est une bonne leçon pour ceux qui, à l'avenir, auront à négocier une primaire. Mais
ça risque peut-être de les encourager à jouer ce double jeu, qui est un jeu qu'on peut qualifier de cynique si on est normatif.
Eh bien, ce sera au détriment de la victoire à la présidentielle, de leur capacité de victoire à la présidentielle, s'ils font ça.
C'est ce que vous pensez.
Et donc, on marche tous sur un fil. Vous savez, c'est compliqué, nos affaires.
Alors, page 125, vous reprenez, enfin, le bandeau de l'éditeur va reprendre cette phrase. Gilles, on a un problème, on est trop haut, trop tôt. Et vous dites comment remédier à cela. Vous dites même, est-ce qu'il fallait faire une énorme connerie pour baisser. À partir de quand précisément avez-vous commencé à avoir une inquiétude sur le résultat du premier tour?
Moi, j'étais inquiet tous les jours que Dieu fait pendant 2 ans et demi, genre. Donc, j'ai pas commencé à être inquiet le dernier jour.
Là, on parle. Mais
parlons des sondages un peu quelques minutes parce que c'est intéressant.
Parce que ça a alimenté régulièrement là.
Ouais, j'ai parsemé mon récit des sondages, c'est-à-dire les seuls éléments chiffrés dont nous disposions à l'époque et qui nous ont à la fois aidé au début à porter la candidature, à la faire vivre, à la nourrir, et en même temps qui ont été aussi trompeurs pour nous à la fin. Les sondages. Pour une présidentielle, si vous voulez, vous avez des sondages en ce moment, tous les jours. Vous en avez plutôt plusieurs par jour. Bon. Et ils sont basés sur un échantillon électoral qui est relativement stable. Grosso modo, il y aura, je ne sais pas, entre 35 et 37 millions d'électeurs à la présidentielle. On le sait déjà à peu près. Ça dépend du taux d'abstention.
20-25% d'abstention.
Voilà, ça dépend des fois. Bon. Et donc, un corps électoral qui varie de 10%, mettons, selon les élections, selon les événements. Pour la primaire, rien de tout ça. Pour la primaire, on était dans l'incapacité d'identifier le corps électoral et donc l'assiette des sondages, qui pouvait varier du simple au quadruple. On pouvait avoir 1 million de votants, certains l'envisageaient, certains le souhaitaient même. On pouvait en avoir 4 ou 5, bon, c'est ce qui s'est passé. Et donc comment mesurer l'évolution de l'opinion lorsque le corps électoral est aussi volatile et peut varier du simple au quadruple? C'est impossible. Ça, moi, je le savais. Mais ça ne m'empêchait pas de regarder les sondages, si vous voulez, parce que d'abord, ils étaient bons. Donc du coup, quand ils sont bons, on en fait état. On dit, regardez, Alain Juppé est en tête, c'est formidable. Et donc on ne peut pas s'empêcher de les utiliser. Intérieurement, j'étais à peu près certain de leur grande fragilité statistique, mais j'étais aussi certain de leur valeur psychologique. Parce que si la candidature d'Alain Juppé s'est installée dans la durée, c'est aussi parce que les gens se sont dit, ah oui, mais en fait, c'est un bon candidat, il peut gagner, il peut battre la gauche, il peut battre le Front National. Et donc on a envie de voter pour lui, on a envie qu'il nous fasse gagner. Donc ça nous a à la fois aidés, et en même temps, ça nous a induit en erreur sur le réel rapport de force dans l'électorat final de la primaire. Et d'ailleurs, même le dernier jour, il y a encore des sondages avant le premier tour, le 19 novembre. Bon, il y a encore des sondages. Et ils sont incroyablement différents du résultat final. Alors même qu'on est à un jour de l'élection.
Ils ont 3 jours de décalage par rapport à...
Ah oui, mais 3 jours de décalage, sachant que la moitié des électeurs de François Fillon se sont décidés dans les derniers jours. C'est énorme, c'est énorme. Donc ça nous a à la fois aidés et induits en erreur. Mais je veux pas critiquer les sondages parce que, d'abord, c'est un paramètre, ça existe, il faut prendre ça en compte. On leur demande pas de faire un pronostic, ils font juste une photographie et il y a bien quelqu'un qui leur demande de la prendre. Pour nous, ça nous donne des indicateurs qui sont parfois trompeurs. Et si jamais il y avait, j'essaye d'imaginer dans mon livre que... on a une campagne électorale sans aucun sondage. Imaginez, on est à la campagne présidentielle, là, on l'a fait de la même manière, et il n'y a aucun sondage. On n'a aucun instrument de mesure, on ne sait pas où on en est. Et ça donne des raisonnements électoraux très différents. On ne sait pas qui va gagner, qui peut gagner, qui va perdre. Et donc on vote selon des critères très différents. Alors je dis ça, c'est très théorique, parce qu'il y aura toujours des sondages, et mon propos n'est pas de les interdire, et d'ailleurs ce serait probablement ni souhaitable ni possible. Mais c'est pour vous dire que à la fin, le sondage, il a une valeur, il a une influence psychologique sur l'électeur.
Sur l'électeur et sur les acteurs qui sont candidats.
Il n'est plus seulement un instrument de mesure de l'opinion à un instant précis. Il devient, il forme en lui-même des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'on finit par se dire, aujourd'hui, tiens, Emmanuel Macron va être au second tour contre Marine Le Pen. On finit par dire, oui, c'est ça qui va se passer, puisque c'est ce que les sondages disent. Bon. Et en fait, et du coup, ça déclenche des votes supplémentaires pour Emmanuel Macron qui, sans ça, n'existerait probablement pas. Et donc, c'est un exemple que je prends, hein, évidemment. Je pourrais en prendre des plus anciens, ce serait moins risqué. Mais c'est pour vous dire qu'au moment de réfléchir et de voter, c'est difficile de ne pas prendre en compte les sondages, quand bien même nous savons que ce n'est pas un instrument de mesure de l'opinion qui a une valeur de pronostic ou de fiabilité très grande.
Donc quand vous avez écrit page 259, j'ai passé 800 jours à attendre de savoir quelle tuile allait nous tomber sur la figure, une vigilance de tous les instants ou presque, c'est ce que vous disiez Gilles tout à l'heure, puis le dernier jour, j'ai traversé la rue en regardant à droite, alors que la voiture arrivait par la gauche. Moi je ne suis pas persuadé qu'elle soit arrivée par la gauche, la voiture, hein, mais si je peux me permettre...
C'était l'inverse.
C'est peut-être plutôt l'inverse, mais toujours est-il que vous n'avez rien vu venir. Voilà, c'est ce que vous dites, ça correspond à...
Dans les derniers jours, pour répondre à votre question précédente, dans les derniers jours, on voit bien que l'évolution de la tendance, on voit bien que la dynamique du côté de Fillon prend, on voit bien l'évolution. Après,
mais vous pensiez pas que l'écart serait aussi important au premier tour?
Ah bah non, ça je vous confirme. Mais d'ailleurs, je mets au défi quiconque de l'avoir prédit. Hein. Enfin, je veux dire, franchement, bon, vous me direz, j'étais censé voir des choses que les autres ne voyaient pas. Mais enfin, fin octobre, trois semaines avant l'élection, François Fillon est encore plus de 20 points derrière les deux autres.
Hein. Alors,
et puis finalement, il termine 20 points devant. Donc il y a quand même quelque chose de très puissant qui s'est passé, qui a échappé, je crois, à tout le monde, avec l'effet démultiplicateur des primaires que j'ai tenté de vous expliquer.
Si les sondages de pronostic, pour les raisons que vous avez parfaitement évoquées, ont montré leur faillite sur les primaires.
Non, j'ai pas dit ça. Il n'y a pas de faillite des sondeurs. Il y a juste
sur le fait qu'on n'avait pas la capacité à qualifier l'assiette électorale. Bon, donc de ce point de vue-là, méthodologiquement, il y avait un biais, j'allais dire presque de nature. Hein. Les sondages qui ont été faits, ce qu'on appelle les sorties des urnes, c'est-à-dire pour mesurer en particulier le profil, l'âge des votants, ont montré que 15% des électeurs du premier tour qui avaient pourtant signé le papier « Je partage les valeurs de la droite et du centre » se disaient ouvertement de gauche, que 8% se disaient Front National et que 8% n'avaient pas d'appartenance politique précise. Si je compte bien, ça fait 31% d'un corps électoral qui est venu quelque part jouer dans le camp d'en face.
Et donc ?
Et donc ça ne participe pas à jeter quand même une ombre sévère sur l'exercice des primaires.
On peut réfléchir à l'infini sur les critères qu'on doit poser pour donner à un électeur le droit de participer à la primaire de la droite et du centre. J'en connais pas beaucoup des critères. Soit on dit qu'il faut appartenir à un parti politique, il faut être adhérent à un parti politique. Dans ce cas-là, on n'a pas 4 millions de votants, on en a 300 000. C'est un choix. On a longtemps fait ce choix. Hein. Mmh. Bon, je ne suis pas certain que ça aboutisse à un résultat plus satisfaisant, mais ça, on peut en discuter à l'infini. Mais dès lors qu'on élargit le corps électoral, qu'on a un Français qui se présente dans un bureau de vote et qui signe le papier comme quoi il se reconnaît dans les valeurs républicaines de la droite et du centre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il souhaite l'alternance. Ça veut dire qu'il est déçu de François Hollande. Il peut être socialiste, il peut avoir été socialiste en 2012, et il peut souhaiter l'alternance. Bon, donc on doit lui retirer le droit de voter parce qu'il a voté Hollande en 2012 ou parce qu'il a été socialiste au municipal. C'est très difficile de poser des critères objectifs. Et donc le seul critère qu'on a trouvé, c'est est-ce que vous signez la charte. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus voter à cause de cette charte aussi. Hein. Ceux-là, on les oublie, on ne les a pas comptés, ceux-là. Vous comptez que ceux qui sont venus, c'est normal.
Non, je comptais ceux qui, pour 2 euros, se sont payés la tête à Sarko, c'est ce qu'on entendait.
Bravo.
Mais ça a effectivement perturbé considérablement le jeu. Vous savez que les sarkozistes, par exemple, ont expliqué que c'était un danger dans cette primaire.
Oui, ça, j'ai bien entendu ça, oui. Bien entendu ça. Enfin, un danger, bon... Encore une fois, c'est formidable d'avoir eu 4,5 millions de votants. C'est formidable d'avoir eu 4,5 millions de votants.
Toujours est-il que dans la politique, vous dites « rien n'est incertain, rien n'est certain, sauf l'improbable ». Ça vit et ça vibre. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis que vous avez rendu votre tapuscrit à l'éditeur, donc vers le 15 janvier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il s'est passé un certain nombre de choses. Alors, page 261, vous dites « je soutiens François Fillon ». Je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, mais je souhaite pour mon pays qu'il soit le prochain président de la République. C'est un homme profondément estimable, calme, sobre, responsable, sympathique dans le contact de tous les jours. Je n'ai aucun désaccord philosophique avec lui sur la manière d'aborder la politique. Il a à ses côtés Patrick Stefanini, pour qui j'éprouve amitié, confiance et respect. Donc tout cela, évidemment, c'était écrit... avant le 25 janvier, jour de sortie du premier article du Canard enchaîné. On sait ce qui s'est passé depuis et évidemment votre changement de enfin votre départ de la fonction de trésorier de la campagne, puisque à la fin vous évoquez cette activité. Bon, je ne vais pas du tout vous mettre dans l'embarras, mais est-ce que la situation est encore plus compliquée à vivre aujourd'hui pour vous ?
En tout cas, elle n'est pas plus simple. Ça, c'est certain. Non, mais je ne retire pas un mot de ce que j'ai écrit, sauf que Patrick Stefanini n'est plus à ses côtés. Ça, c'est la seule chose qui a changé.
Non. Oui, mais ça je vous laisse assumer non, mais, ce que vous avez.
Ouais. Mais, non, mais moi, je vais vous dire, on a connu une période extrêmement compliquée qui a suscité un désarroi profond jusque dans le cœur le plus intime de notre électorat. Et donc, on ne peut pas se mettre des œillères et avancer comme si rien ne s'était passé. En tout cas, c'est mon point de vue. À titre personnel, j'avais accepté les fonctions de trésorier de la campagne présidentielle et j'en ai démissionné parce que je travaillais en confiance avec Patrick Stefanini, le directeur de la campagne, et en confiance avec mon équipe de la direction financière de la campagne, qui tous étaient partis. Et c'était une fonction qui engageait, outre mon soutien politique, que François Fillon conserve, une responsabilité juridique et pénale que je ne me sentais plus en situation d'assumer. Fonction de trésorier, elle a des particularités. Hein. Ah oui, c'est pas un conseiller politique qui vient une fois par semaine dire voilà ce qu'il faut faire. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Pour autant, quand on regarde les projets, j'espère qu'à partir de ce soir, c'est ce qu'on va faire, à partir du débat de ce soir. Moi, je regarde les projets et j'ai aucune espèce de doute sur le fait que c'est le projet de François Fillon qui sera le plus à même de redresser la France. Voilà. Et pour que son projet s'applique, il faut qu'il soit élu. Et donc, je retire aucun mot de ce que j'ai dit sur lui dans mon livre.
Et la capacité à gouverner et à présider, plutôt à présider, ouais, n'est pas entamée par ce qui s'est passé.
Ah, peut-être que si. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour voter pour un projet qu'on n'approuve pas ?
Un débat, en tous les cas.
Bah, voilà,
toujours est-il que vous dites « j'ai le virus de la politique, c'est incurable et, », et vous êtes donc candidat dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, celle de Chaville-Sèvres, hein, c'est votre pays d'enfance, si je puis dire, hein, c'est votre là où vous avez passé une partie de votre jeunesse. Donc vous allez vous retrouver, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, hein, parlementaire et député. Hein, c'est
le cas candidat.
En tous les cas, candidat.
Ouais.
Ça va vous faire bizarre de nager dans le grand bain tout seul sans avoir Alain Juppé à vos côtés?
D'abord, permettez-moi de vous dire que c'était plutôt moi qui étais à ses côtés.
Mais non, je veux dire, la situation est...
Ensuite, je veux croire qu'il sera toujours à mes côtés pour ces combats-là. C'est un moment important, parce que quand on a été collaborateur pendant 15 ans et que cette page se tourne, de gré ou de force, on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir ce qu'on fait. Il y a deux solutions, soit on fait complètement autre chose, c'est toujours possible, soit on s'engage encore davantage. Moi, j'ai choisi de m'engager encore davantage. Et c'est vrai que c'est pour moi une étape importante de ma vie. Et puisqu'on est ici à la station Ozone, je me suis souvenu de cette citation d'Ozone qui parlait des truites saumonées, parce qu'il avait souvent des métaphores animalières et poissonnières. Et il disait « Toi, truite saumonée, qui n'est pas encore le saumon et qui n'est plus tout à fait la truite. »
Et la couleur de la truite saumonée, c'est rose un peu.
Ça, c'est un peu moi en ce moment jusqu'au mois de juin. Voilà.
Donc j'ai dit,
c'est un peu rose.
Oui, c'est ce que je disais. La truite saumonée, j'y connais pas grand-chose en halieutique, mais c'est un peu rose, non ?
C'est votre couleur préférée, Jean ?
Ah non, du tout. Alors là, ça c'est autre chose. Hein. C'est un autre débat. Cela dit, la truite au bleu, ça peut être excellent aussi. Hein. Je vous recommande très chaleureusement. D'abord, je crois qu'on peut applaudir Gilles Boyer. La lecture de ce livre passionnant, si j'ose dire, ça se lit comme un roman, mais c'est un compliment. Hein. Merci à vous. Ah, merci.
Merci.